France Musique. Musicopolis. Strozzi. 1659. Venise. Vers 1635, Barbara Strozzi, à 16 ans, est déjà connue comme une chanteuse exceptionnelle. Les contemporains comparent sa voix à celle d'Amphion ou d'Orphée, ou encore au son de l'harmonie des sphères. Sa grâce est, dit-on, celle du printemps. Malheureusement, tous ces compliments ne nous donnent aucune description précise de sa voix, et quant à sa musique, elle n'est jamais mentionnée. Seul un témoin écrit dans une lettre que si elle avait vécu dans une autre ère, elle aurait certainement usurpé ou élargi la place des muses. Aucun de ses contemporains ne mentionne la musique de Barbara Strozzi. Un seul nous révèle au détour d'une phrase qu'elle en a écrit. Si elle n'avait pas publié ses œuvres, nous n'aurions sans doute jamais su qu'elle avait été compositrice. Il est d'ailleurs très étonnant que tant d'œuvres d'elle aient été éditées. L'activité de composition était assez habituelle pour une chanteuse, comme pour n'importe quel musicien. On jouait ou on chantait ce qu'on avait écrit, puis une fois que le moment de l'interprétation était passé, la composition passait, elle aussi. Les exécutions étaient le plus souvent privées, et en ce temps où on interprétait la musique toute fraîchement écrite, on ne conservait pas les partitions. Les musiciens étaient célébrés comme interprètes, beaucoup plus que comme compositeurs. La composition était en quelque sorte accessoire. Barbara Strozzi est sans aucun doute au fait que le public apprécie les musiciens avant tout comme interprètes et que les nombreux musiciens qui composent ne publient généralement pas. C'est pourquoi le fait qu'elle-même ait publié 8 volumes en une vingtaine d'années est tout à fait significatif. Dans ses premières préfaces, elle fait référence de manière explicite au fait qu'elle est une femme. Pour l'opus 1, un volume de madrigaux publié en 1644, elle a alors 25 ans, elle écrit à l'adresse de Vittoria della Rovere, la grande duchesse de Toscane, je cite « Je dédie avec vénération ce premier ouvrage, qu'en tant que femme, je publie avec inquiétude, au nom très auguste de votre Altesse, afin que sous un chêne d'or, il puisse reposer en toute sûreté contre les éclairs de calomnie préparés contre lui. Les dédicaces des premiers recueils publiés par Barbara Strozzi ont le ton typique des dédicaces de l'époque, d'une modestie qui frise l'auto-dépréciation. Dans l'opus 1, elle s'excuse, en tant que femme, de mettre en lumière ses œuvres qu'elle qualifie de chansons mal composées, avec une témérité excessive. Mais il ne faut pas s'y tromper. Le fait de publier un opus 1 est évidemment une marque de confiance en soi. À cette époque, depuis le milieu du XVIe siècle, c'est en offrant au public un recueil de madrigaux qu'un jeune compositeur montre qu'il a terminé ses études et qu'il est prêt à affronter les oreilles extérieures. Et si on examine le texte du premier madrigal de cet opus 1, à deux voix, écrit sur un poème de Giulio Strozzi, son père, on y lit une véritable déclaration d'intention. La narratrice espère, grâce à sa bonne étoile, être couronnée de lauriers immortels et devenir une nouvelle Sappho, pas aussi modeste que l'annonce la préface. Si la narratrice du premier madrigal de Barbara Strozzi espère devenir la nouvelle Sappho, dans la dernière pièce du recueil, elle est encore plus sûre d'elle. Elle fait au dieu qui l'a couronnée de laurier et de myrte la promesse de produire à l'avenir des mélodies encore plus belles. Et elle défie celui qui n'apprécierait pas son ouvrage de faire mieux. À peu près tout ce qu'on sait de Barbara Strozzi grâce à ses contemporains concerne la vie de la compositrice avant ses 20 ans, lorsqu'elle est la maîtresse de cérémonie des réunions de l'Académie des Unisoni, société d'intellectuels et de musiciens. On en apprend ensuite un peu plus sur elle en 1644 avec la publication de son premier opus, un livre de madrigaux de 2 à 5 voix sur des textes de Giulio Strozzi. Elle explique dans la préface que c'est Giulio qui lui a donné un nom et qui a veillé sur elle depuis l'époque où elle était petite fille. C'est par lui qu'elle a rencontré des musiciens, dont certainement Monteverdi, et Francesco Cavalli, qui est devenu son professeur. On n'en savait pas beaucoup plus sur elle, sur le plan biographique, lorsqu'une de ses biographes, justement, a découvert dans les archives de la ville de Venise une lettre écrite par Barbara le 11 décembre 1651, adressée à l'administration des impôts. C'est l'époque du siège de Candie, autrement dit d'Héraclion, principale ville de Crète. La République de Venise s'y oppose à l'Empire ottoman. Ce siège va durer plus de 20 ans, le plus long de l'histoire. Au moment de la guerre de Candie, la République de Venise lève des impôts supplémentaires pour subvenir à ses besoins en armes, en hommes, en vivres et en tout ce dont elle a besoin pour soutenir un siège. Le 11 décembre 1651, notre compositrice s'adresse au doge. Prince sérénissime, depuis que notre chère patrie est entrée dans le tourment de la guerre, moi, Barbara Strozzi, humble servante de votre Altesse, je compatis à ses malheurs. Et mon état ne me permettant pas de la défendre avec mon sang, j'ai rassemblé tous mes biens et vendu mes meubles, les réduisant ainsi à des espèces que j'ai intégralement versées au trésor public, bien convaincu qu'un malheur public fait le malheur de tous les citoyens. Croyant avoir accompli par ce sacrifice librement consenti tout ce qui était dans les limites de mon possible, et ne m'attendant donc pas à être contrainte à l'impossible, je fus néanmoins saisi à l'improviste par un mandat des gouverneurs des recettes m'obligeant à payer au trésor public 2 taxes de 100 ducats chacune qui me furent imposées à un moment où, me trouvant loin de la ville, je ne pus venir défendre personnellement ma cause. Je suis persuadée que si les honorables gouverneurs des impôts avaient considéré ma situation familiale, avec une mère en grand âge et 4 enfants à charge, ainsi que l'étroitesse de mon budget, ce tourment m'eût été épargné. Il ressort clairement des livres publics que je n'ai aucune dette à payer. Et Dieu m'est témoin que si le peu que je retiens du trésor public venait à me manquer, je serais nécessairement réduite à dépendre de la charité d'autrui. C'est donc à genoux que je supplie votre Altesse de ne pas permettre l'extermination d'un ménage dans l'impossibilité de payer, parce qu'il a, du temps où il en avait les moyens, confier ses avoirs au trésor public. C'est à genoux que je la supplie de compatir au malheur d'une famille nombreuse, de m'accorder grâce, de permettre que ma cause soit entendue par un tribunal, afin que je puisse, moi aussi, bénéficier de ce réconfort charitable qui, dans cette sérénissime république, n'a jamais été refusé aux larmes de l'indigence. Thank you. grâce à la lettre retrouvée dans les archives et adressée au doge de Venise, on sait qu'à 32 ans, Barbara Strozzi a 4 enfants et que sa mère vit avec elle. Pour la petite histoire, la lettre qu'elle écrit au doge sera reçue de manière positive et elle sera exonérée de sa dette. Il est probable aussi qu'à la même époque, elle entretient son père. Aucun mari de Barbara n'apparaît pour le moment dans les archives et on peut se demander qui était le père de ses enfants. Encore une fois, ces biographes ont fait un travail de recherche, comme une enquête policière, pour trouver quelques éléments de réponse. Ceux-ci se trouvent dans des testaments et dans des registres de couvents. Et ils permettent d'affirmer qu'un certain Giovanni Paolo Widmann est le père d'au moins 3 des 4 enfants de Barbara. Les Widmann sont une famille de businessmen et banquiers fortunés, arrivés du sud de l'Autriche au siècle précédent. Plusieurs Widmann ont été les amis, ou du moins des relations de Giulio Strozzi, qui leur a dédié quelques-uns de ses livrets. Sur les 4 enfants, 3 sont entrés dans les ordres, 2 filles au couvent et un garçon dans un monastère. Pour le dernier, il n'a rien fait de particulier qui nous permette de mieux le connaître, si ce n'est qu'il désirait vendre un portrait de son grand-père, Giulio Strozzi, ayant appartenu à Barbara.
Parla più, 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 par
il semble que Giovanni Paolo Widmann, le père des enfants de Barbara Strozzi, leur ait laissé quelque chose dans un codicille secret de son testament. Il est mort en 1648 lorsque l'aîné des enfants n'avait que 7 ans. Quelques années plus tard, c'est la propre épouse de Giovanni Paolo, oui, parce qu'il était marié à une autre femme, qui a payé la dot pour que les deux filles puissent entrer au couvent. L'une d'elles, entrée sous le nom de Laura Strozzi, s'est d'ailleurs bientôt fait appeler sœur Lodovica Widmann. Barbara Strozzi est certainement très pieuse, même si elle a eu ses enfants hors mariage. En tout cas, elle publie en 1655 un recueil de pièces religieuses, son opus 5, l'année qui précède l'entrée de sa fille aînée Isabella au couvent, où elle mourra avant d'avoir pu prononcer ses vœux. Ce recueil, dédié à Anne d'Autriche, met l'accent sur la Vierge Marie, une figure de femme forte, mise en valeur par la contre-réforme, pourtant très misogyne. Oh Maria per la Madonna de Barbara Strozzi, extrait de son opus 5, Maria Cristina Kier soprano avec le concerto Soave. Tout le programme, la réécoute et le podcast de cette émission sont bien sûr sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Pierre Mine pour le mixage, Françoise Monteil, Aurélie Moreau, Philippe Demenoux pour le site et la préparation et Claire Lagarde pour la réalisation.
À réécouter sur francemusique.fr.